VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Idrissa Sedoudia, bienvenue à l'écoute de VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes. Les grands points de l'actualité. Au Mali, les enquêteurs sont sur place à Sévaré après l'attaque contre l'hôtel Biblos. En Guinée, Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme, réclame la remise en liberté des 5 officiers en détention sans jugement depuis 4 ans. Pierre Claver Mbonimpa, important membre de la société civile burundaise, est arrivé à Bruxelles pour des soins médicaux après la tentative d'assassinat de la semaine dernière. En République démocratique du Congo, report à demain de la session extraordinaire du Sénat qui devait se tenir ce matin. Nouvel attentat terroriste à Kaboul, 5 civils tués et 16 blessés. Et comme d'habitude, notre page économique, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal. Dans le centre du Mali, les enquêteurs sont à Sévaré après l'attaque contre l'hôtel Biblos. Il n'y a pas eu de revendication de la prise d'otages qui a fait 13 morts, dont 5 employés de l'ONU. Les enquêteurs soupçonnent le Front de libération du Massina, un groupe allié à Ansar Dine. Toujours au Mali, la ville de Ménaka, dans l'est du pays, connaît des inondations après une semaine de pluie diluvienne. Les dégâts sont importants et il y a eu des morts, mais le nombre exact n'est pas encore déterminé. Le point avec Al-Husseini Agali de la radio Ménaka.
Il y a une semaine, la pluie ne fait que tomber dans le cercle de Ménaka. Il y a eu des inondations. Il y a eu vraiment des dégâts. On enregistre des gens et 3 morts. On parle de 2 autres qui ne sont pas vraiment concernés pour le moment. Les maisons, il y a à peu près 807 abris cassés, totalement gâtés. Il y a des familles qui se sont déplacées dans les écoles. Aujourd'hui, même il y a eu la délégation conduite par le directeur du cabinet du gouverneur de la région de Gao. Il est venu à Ménaka une mission d'urgence. Ils ont évalué tous ces dégâts. Il y avait un addiction d'eau de Ménaka, mais aujourd'hui, c'est comme de la mare, parce que l'eau même, c'est comme de l'eau de la mare. Les pompes de l'addiction d'eau ne fonctionnent pas normalement. Donc vraiment, il y a un problème d'eau actuellement à Ménaka.
C'était notre collègue Al-Husseini Agali de la radio Ménaka. En Guinée, Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme, estime que les 5 officiers en détention sans jugement depuis 4 ans devraient être relâchés. Ils avaient été arrêtés après l'attaque du domicile privé du président Alpha Condé le 19 juillet 2011. Emmanuel Bamba, président de la Ligue guinéenne de défense des droits de l'homme, avait déjà demandé leur libération. Au Niger, l'opposition a rejeté le chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante. La coalition de l'opposition souhaite la tenue des élections locales avant la présidentielle de 2016 et récuse la Cour constitutionnelle. Pierre Claver Mbonimpa est arrivé hier à Bruxelles pour des soins médicaux, grande figure de la société civile burundaise. Il a été la cible d'une tentative d'assassinat la semaine dernière. Il a été grièvement blessé par 2 balles au visage et au cou. Toujours au Burundi, l'enquête sur la mort du général Adolphe Nshirimana continue. Le chef des services de renseignement a été assassiné dimanche dernier. Le parquet a indiqué connaître l'identité des auteurs de l'attaque contre le général et que certains ont été appréhendés. En République démocratique, en République centrafricaine cette fois-ci, dernier hommage ce lundi de la MINUSCA aux soldats du contingent rwandais tués samedi par un de leurs frères d'armes dans une de leurs bases à Bangui. Les obsèques se sont déroulées au siège de la MINUSCA en présence des autorités centrafricaines à Bangui, correspondance de Freeman Spipila.
Cérémonie d'hommage à nos collègues tragiquement disparus samedi dernier. dans les conditions que tout le monde sait. Ça a été une tragédie pour la mission.
Une tragédie pour la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique. 5 soldats rwandais étaient morts dans la fusillade du 8 août. Seulement 4 corps ont été officiellement exposés. Après l'exposition au siège de la MINUSCA, les 4 corps officiellement présentés sont accompagnés par le contingent rwandais à l'aéroport international de Bangui pour être rapatriés dans leur pays. Malgré ce drame, les soldats rwandais restent déterminés à soutenir la paix en Centrafrique. Amadou Ntouré.
Ce que nous avons surtout retenu, c'est la détermination des casques bleus rwandais à continuer leur travail pour le retour de la paix et pour la stabilisation de la République centrafricaine.
Samedi 8 août, une fusillade dans une base du contingent rwandais de la MINUSCA, non loin de l'aéroport de Bangui, a fait au moins 5 morts, dont l'auteur des tirs est 10 blessés. La MINUSCA a ouvert une enquête, enquête qui sera difficile car l'auteur du drame fait lui aussi partie des tués. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En Libye, 9 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans un attentat suicide à la voiture piégée hier soir à Derna, dans l'est du pays. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. En Égypte, pendant ce temps, 4 policiers ont été blessés, dont 2 grièvement dans l'explosion d'une bombe près d'un tribunal au Caire. L'attentat a été revendiqué par Ajnad Misr, un groupe djihadiste.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Turquie, en début de semaine marqué par une série d'attentats, dont une fusillade devant le consulat américain à Istanbul. Les précisions de Jacques Aristide.
Une attaque perpétrée par 2 femmes et revendiquée par le parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple. L'une des 2 assaillantes a été arrêtée par la police. L'autre était toujours en fuite ce lundi. Ce parti, considéré par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne comme un groupe terroriste, avait commis en 2013 un attentat meurtrier contre l'ambassade américaine à Ankara. Autre incident à Istanbul, l'explosion d'un véhicule devant un commissariat du quartier de Sultanbeyli. Au moins 10 personnes, dont 3 policiers, ont été blessées. Des affrontements avec la police se sont poursuivis toute la nuit et 2 personnes présentées comme des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, ont été tuées. Ailleurs, en Turquie, au moins 4 policiers ont été tués par un engin explosif dans le sud-est du pays. Un attentat qui a eu lieu dans la province de Sirnak, frontalière de l'Irak et de la Syrie, et qui a été attribué, là également, au PKK. Les rebelles kurdes sont aussi accusés d'avoir tué un soldat toujours à Sirnak après avoir tiré sur un hélicoptère militaire.
En Afghanistan, les talibans ont revendiqué l'attentat à la voiture piégée de ce lundi à l'entrée principale de l'aéroport international de Kaboul. 5 civils ont été tués et 16 autres blessés. Selon des témoins, la cible de cette puissante explosion était un convoi de voitures blindées transportant des officiels gouvernementaux. Un porte-parole taliban a lui dit que les forces d'occupation étrangères étaient visées. À noter qu'il y a eu ces derniers jours en Afghanistan plusieurs attentats à la bombe revendiqués par les talibans. Un avocat de Jason Rezaian, le correspondant du Washington Post en Iran, s'attend à un verdict à son procès pour espionnage dans la semaine qui suit, après qu'un tribunal de Téhéran eut tenu aujourd'hui ses dernières audiences à huis clos. Le procès s'était ouvert en mai. Les responsables du poste et les groupes internationaux de défense de la liberté de presse ont condamné à plusieurs reprises ce procès et insisté sur l'innocence de notre confrère. Un policier à Kos, île grecque proche de la Turquie, a été suspendu après la diffusion par les médias d'un document le montrant un couteau à la main en train de gifler un migrant, a annoncé lundi la police grecque qui a ouvert une enquête sur ce qu'elle a qualifié d'actes condamnables. La scène montre le policier donnant une gifle à ce migrant qui semble n'avoir pas respecté la ligne tracée par terre au couteau par le fonctionnaire alors qu'il était en train de patienter avec des dizaines d'autres personnes devant le commissariat pour obtenir les papiers les autorisant à poursuivre leur voyage vers Athènes. La Grèce, porte d'entrée dans l'Union européenne, est dépassé depuis un an par l'afflux de réfugiés, pour beaucoup en provenance de Syrie via la Turquie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Écho avec Jean-Roger Bion, l'actualité économique en Afrique et ailleurs.
Le gouvernement guinéen vient de renouveler avec l'Iran un accord pour la production de bauxite signé en 1992. Cet accord entre Conakry et Téhéran porte sur le développement de plusieurs gisements miniers aux réserves estimées à 600 millions de tonnes. Et selon l'agence Reuters, le renouvellement de la convention a été acté à la fin du mois de juillet par le ministre guinéen des Mines, Kerfala Yansane, et le ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Mohamed Reza Nemadzadeh. L'offre de pétrole sur le marché mondial sera plus abondante à partir de décembre, a prédit dimanche le ministre algérien de l'énergie, Salah Kebri, dont le pays a perdu la moitié de ses revenus en raison de la baisse des prix de l'or noir. Selon le ministre algérien, les consultations sont en cours entre les pays de l'OPEP au sujet d'une éventuelle réunion extraordinaire du cartel consacrée à la baisse des cours. 4,4 milliards de francs CFA du PNUD et de la coopération suisse pour le secteur agricole au Burkina Faso. Ce programme baptisé AgriFinance Burkina va s'étendre sur 4 ans. Il interviendra notamment dans 3 zones, le nord, l'est et la boucle du Moun, avec pour perspective une extension sur l'ensemble du pays. L'agriculture burkinabè contribue pour près de 40% à la formation du produit intérieur brut et occupe plus de 86% de la population active.
Voilà pour la Minute Écho de ce mardi. Elle vous était présentée par Jean-Roger Bion, que nous remercions. L'espoir maintenant avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Idrissa.
Coupe de la Confédération, reprise du match entre le Stade malien et l'Espérance de Tunis.
Oui, le coup d'envoi a été donné à 16h30, temps universel à Bamako. Il restait 40 minutes de jeu entre les deux équipes pour ce match comptant pour la 4e journée de la phase de groupe. Hier, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale malienne ont contraint l'arbitre à arrêter la rencontre alors que les Tunisiens menaient 1-0. Eh bien, le score n'a pas changé. Victoire finale ce lundi des Tunisiens, 1-0.
Supercoupe d'Europe demain, 100% espagnol.
Le FC Barcelone, vainqueur du triplé Liga, Coupe, Ligue des Champions, repart en chasse avec la Supercoupe d'Europe qui aura lieu demain contre Séville. Les Blaugrana viseront, malgré l'absence de Neymar, un 4e titre sur 6 possibles en 2015. A noter que le match se jouera à Tbilissi, en Géorgie.
Tacle contre Michel Platini à la FIFA.
Il faut de nouvelles têtes et lui fait partie de ce système, estime Ali Bin Al Hussein, concurrent du président démissionnaire de la FIFA, Sepp Blatter, à la précédente élection. Dans un entretien à l'AFP, le prince jordanien s'inquiète notamment des effets néfastes de la crise à la FIFA sur les sponsors. Il dit s'opposer à Michel Platini, le grand favori à la succession de Sepp Blatter.
Basket tournoi de Dakar.
Ce tournoi qui sert de préparation à l'Afrobasket en Tunisie est perturbé par le forfait de la Côte d'Ivoire. Une équipe B du Sénégal va affronter ce soir, 19h, temps universel, le Mali. Hier, lors du premier match, le Sénégal s'est rassuré en battant le Cap-Vert, 72-50.
Michael Phelps, impressionnant.
La superstar de la natation américaine a signé sa 3e performance mondiale de l'année en 3 jours, en remportant hier le 200 mètres 4 nages des championnats américains. Le sportif le plus titré de l'histoire olympique s'est imposé en 1 minute 54 secondes et 75 centièmes. Il a confirmé qu'il serait l'un des candidats aux honneurs olympiques à Rio 2016. Phelps, 30 ans, avait déjà fait sensation sur ses chronos en 200 mètres papillon vendredi et sur 100 mètres papillon samedi. Je vous rappelle, Idrissa, que Phelps n'a pas participé au Mondial 2015 de natation à Kazan, en Russie, sur décision de sa fédération. On se souvient qu'il avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse. C'était en septembre dernier.
Rappel pour rappel, eh bien, merci d'abord à Nicolas Pineau. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Nicolas Pineau à 19h, temps universel, pour notre émission hebdomadaire Sporama. Tous les résultats et tous les commentaires relatifs au match du week-end. Et bien plus encore avec Nicolas Pineau à 19h, temps universel, Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydou Dia en votre compagnie pour cette édition du lundi 10 août 2015. Place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, la session extraordinaire du Sénat qui devait se tenir ce lundi sur une loi électorale controversée et qui avait déjà été rejetée par l'Assemblée nationale. Parmi les points à problème, la liste électorale et la répartition des sièges en vue des élections locales et provinciales. Pour un éclairage, Timothée de Nangmaï a contacté Jean-Lucien Kitima, professeur des sciences politiques à l'Université de Kinshasa.
La crédibilité des élections, c'est le fichier électoral. Le Sénat estimait que le fichier électoral doit être nettoyé, doit être actualisé avec le nouveau majeur et qu'on ne peut pas aller aux élections avec deux fichiers électoraux pour un même cycle. Et je crois que c'est ça, en fait, la difficulté. Parce que pour le Sénat, le chef de l'État a déjà marqué son accord pour que les nouveaux majeurs soient enrôlés. Mais on ne peut pas, en fait, faire des choses comme s'ils n'existaient pas. Alors, c'est à ce niveau qu'on est. Je crois que le gouvernement, lui, il n'a pas besoin de la crédibilité des élections, mais le gouvernement a besoin qu'on aille avec l'ancien fichier électoral. C'est là où se pose le problème.
La répartition des sièges par circonscription fait également problème. Est-ce qu'il y a une solution en vue?
En fait, le problème, c'est qu'il y a des problèmes de la technique de la répartition des sièges et du principe de l'allocation des sièges au secteur qui est apparu comme un problème parce qu'il crée la tension entre, en fait, les groupements. Donc, on préfère qu'on laisse les sièges. Si on dit, par exemple, qu'il faut pour un secteur 13 sièges, qu'on laisse l'enjeu se déterminer à l'intérêt des groupements plutôt que d'arranger la chose d'office à partir de 10 secteurs parce que la professionnelle veut que chaque groupement alors ait un siège sans tenir compte, en fait, du nombre d'électeurs.
Est-ce qu'il faut voir dans ce débat un bras de fer pouvoir-opposition ou bien est-ce que la discussion est beaucoup plus nuancée?
Le débat ne se fait pas en termes de force politique. Le débat, si je l'ai bien suivi, c'est en termes de groupements ou de provinces. C'est des gens qui pensent pas qu'ils seraient mieux représentés dans la distribution retenue par le Sénat. Et ça, ce n'est pas avant tout un débat politique entre opposition et majorité. Mais il revient par la suite à l'idée que les uns et les autres se font, des calculs faits. Parce que les gens pensent que la CENI a procédé à une distribution qui pourrait favoriser, en fait, une tendance. C'est là où le débat devient politique.
C'était Jean-Lucien Kitima, professeur de sciences politiques à l'Université de Kinshasa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Burundi, des tirs ont été entendus toute la nuit à Bujumbura, la capitale. Hier, le militant des droits de l'homme, Pierre Claver Monimpa, est arrivé à Bruxelles pour des soins médicaux suite à la tentative d'assassinat dont il a été l'objet la semaine dernière. Pendant ce temps, le procureur de la République dit progresser dans l'enquête sur la mort du général Adolphe Chimirimana, au responsable de la sécurité de Bujumbura, une correspondance de Christophe Kurunziza.
Alors que plusieurs proches d'Adolphe Chimirimana ont défilé hier en sa mémoire dans les quartiers de Kamenge, la nuit dans la capitale était ponctuée par des tirs à l'arme automatique. La police parle de deux policiers blessés d'un véhicule incendié. C'est devenu une habitude d'entendre des tirs nourris à Bujumbura de l'ancien chef adjoint d'état-major de l'armée, proche du pouvoir de Bujumbura. Mais il est difficile de distinguer des tirs des habitants hostiles au troisième mandat de Pierre Nkurunziza de ceux des policiers. Ce lundi matin, les forces de l'ordre ordre, fouiller l'autre quartier contestataire de Jabé. Ces tirs ont été entendus 7 jours après l'assassinat à la roquette du numéro 2 du régime en deadline qu'avait donné le président Nkurunziza aux services habilités pour retrouver le commanditaire de l'assassinat d'Adolphe Chimirimana. Dans un communiqué, le procureur général de la République a annoncé que les exécutants à la roquette ont été identifiés et d'autres arrêtés sans préciser leur identité. Mais le procureur a affirmé que les planificateurs du crime sont activement recherchés, mais le communiqué lu à la radio et télévision nationale indique que le véhicule utilisé par les criminels est sorti le matin du crime dans le camp de Ngagara au nord de la capitale. Le procureur affirme également que le véhicule incendié et les tenues que portaient les assaillants ont été retrouvés dans les quartiers contestataires de Moussaga au sud de la capitale. Signalons que dimanche, les partisans ou proches d'Adolphe Chimirimana, tous vêtus de noir, ont défilé en sa mémoire dans le quartier de Kamenge au nord de la capitale où il a été assassiné. Notons également que le procureur général de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire après la tentative d'assassinat du plus grand défenseur des droits de l'homme au Burundi, Pierre Claver Mbonimpa, qui a été emmené en Belgique hier pour des soins. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura, et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
En Guinée, Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme, a reconnu que les 5 officiers en détention sans jugement depuis 4 ans devraient être relâchés. Ils avaient été arrêtés après l'attaque du domicile privé du président Alpha Condé le 19 juillet 2011. Idriss Fall a joint à Conakry maître Pana Emmanuel Bamba, président de la Ligue guinéenne de défense des droits de l'homme.
Ces 5 officiers, il s'agit entre autres du général Noun Cham et du colonel Sadou Diallo et 3 autres officiers de l'armée guinéenne, qui coupissent en prison en toute illégalité depuis août 2011 au motif qu'ils seraient mêlés à l'affaire de l'attaque contre le domicile du chef de l'État qui a eu lieu le 19 juillet 2011. Et depuis lors, leur dossier est renvoyé devant le tribunal militaire qui n'existe pas encore dans la pratique en Guinée. Et donc, ils sont détenus en violation de toutes les règles de procédure. C'est pourquoi le samedi, nous avons publié un communiqué de presse, je veux parler de la Ligue guinéenne des droits de l'homme et de la Fraternité des prisons de Guinée, pour demander leur libération immédiate et inconditionnelle parce que leur détention n'est pas fondée sur le droit.
Apparemment, le ministre des Droits de l'Homme de Guinée semble vous donner raison.
Oui, absolument, parce que nous avions contacté M. le ministre des Droits de l'Homme et même son homologue de la justice, qui ont tous reconnu qu'à ce niveau, les personnes en question sont victimes de violations de leurs droits, parce que du moment où le tribunal militaire n'existait pas, du moment d'ailleurs où la peine qu'on pourrait leur infliger est purgée, par exemple, le général Noun Cham 24 fois, parce que s'il est reconnu coupable, c'est la peine d'emprisonnement de 2 mois qu'on pourrait lui appliquer d'après le Code pénal guinéen en son article 547 alinéa 1. En ce qui concerne les 4 autres, leur peine d'emprisonnement, le maximum, c'est 6 mois. Et alors que depuis 2011 jusqu'à nos jours, ils ont fait 48 mois. Donc nous pensons que leur détention est illégale. C'est pourquoi effectivement M. le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a reconnu sur les antennes de certaines radios que effectivement leur détention est illégale.
Et vous pensez qu'ils seront relâchés quand même?
Oui, c'est notre souhait et nous estimons que les autorités guinéennes, en tout cas les autorités judiciaires, sont informées officiellement par rapport au cas de ces 5 officiers et nous estimons que nous sommes dans un état de droit. Par conséquent, les 5 officiers en question seront mis en liberté immédiatement et sans condition.
Maître Pana Emmanuel Bamba, président de la Ligue guinéenne de défense des droits de l'homme.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Ici aux États-Unis, à Ferguson, dans le Missouri, l'homme blessé par balle par la police hier est dans un état critique. Il avait tiré sur la police en marge des manifestations marquant le premier anniversaire de la mort de Michael Brown, l'adolescent noir non armé abattu par un policier blanc dans cette banlieue de Saint-Louis, le 9 août 2014. Le commissaire de police du comté, John Belmar, a expliqué que deux bandes rivales ont échangé des tirs et un homme qui s'enfuyait a alors croisé quatre policiers en civil à bord d'un fourgon et tiré sur eux, touchant le véhicule de la police qui a répliqué. Lionel Gaïma fait le point.
Selon le commissaire Belmar, il s'agissait là des criminels et non pas des protestataires. Les protestataires, ce sont les gens qui sont là-bas parlant de moyens d'obtenir le changement. Tel n'était pas le cas avec ces deux bandes, a soutenu le chef de la police du comté de Saint-Louis. Quant au père du blessé, il a dit au Saint-Louis Post-Dispatch que son fils était un ami proche de Michael Brown. Belmar estime que cette violence était un obstacle à un changement positif, ajoutant que la police avait accru sa présence dans le secteur après qu'on a signalé des actes de pillage et de jets de bouteilles près de ses policiers. L'un d'entre eux a été blessé, dit-il, par une brique dimanche soir à Ferguson. Tout en reconnaissant que les émotions sont fortes, le commissaire de police a dit que la communauté se devait d'aller de l'avant et il a demandé de l'aide pour identifier ceux qui sont allés au-delà des protestations pacifiques. Des rassemblements ont eu lieu ailleurs dans le pays, notamment Washington et New York, pour commémorer le premier anniversaire de la mort de Michael Brown, symbole pour beaucoup de l'impunité consécutive à la mort de jeunes gens noirs non armés abattus par des policiers blancs. Hier, à Ferguson, les manifestants portant des t-shirts à l'effigie du jeune homme mort à 18 ans ont observé 4 minutes 30 de silence pour symboliser les 4 heures et demie pendant lesquelles le corps de Michael Brown était resté dans la rue, face contre terre, avant d'être transporté à la morgue. Intervenant sur This Week with George Stephanopoulos, un programme de ABC News, le sénateur Cory Brown de New Jersey a parlé de l'inégalité raciale dans le système judiciaire américain. Quand vous voyez une justice criminelle qui n'est pas ce qui est gravé sur les murs de la Cour suprême, justice pour tous, comprenez s'il vous plaît qu'il va y avoir une réaction que l'on peut comprendre dans notre pays. Tout a commencé il y a un an en Ferguson, quand le policier Darren Wilson s'est présenté sur les lieux après qu'on a signalé un vol dans une boutique locale. Une confrontation s'en est suivie quand il a rencontré Michael Brown qu'il allait abattre avec 12 balles. Le policier Wilson a été acquitté. Cette tragédie a provoqué un tollé et donné naissance au mouvement Black Lives Matter, la vie de Noir compte. Il y a eu par la suite la mort de Walter Scott en Caroline du Sud et de Freddie Gray à Baltimore. Dans ces deux cas, plusieurs policiers ont été inculpés, mais inculpation ne signifie pas condamnation, et cela inquiète ceux qui estiment que la police cible le noir de manière disproportionnée au sein de la population carcérale qui ne cesse de grossir aux États-Unis. De nouveau, le sénateur Cory Brown. Nous représentons 4% de la population mondiale, 4 à 5%, et une sur quatre personnes est emprisonnée ici dans ce pays. Bien sûr, il y a des raisons d'être bouleversé et de réagir.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui. À la mise en onde de Michel Joseph, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.